Attention au chant.
Oui, vous avez remarqué le point commun de la plupart. Le retour de Jésus. Toute la journée, on va parler de ça, ce matin et cet après-midi. Voilà. Vous allez vous dire, le pasteur, il ne s'est pas cassé la tête. Mais c'est un sujet tellement vaste que je veux prendre la journée pour en parler, ce matin, cet après-midi. Et je voudrais nous poser une question. Vous avez vu les chants qu'on a chantés, « Tu me rends libre par ta présence ». Je suis dans la joie jusqu'au jour de ton retour. On a chanté aussi dans le chant « Ô prends mon âme », pourquoi gémir, Jésus s'apprête, il va venir. Vous voyez, il y a beaucoup de chants comme ça, la trompette sonne. Voilà, ça c'est un chant beaucoup plus marqué à ce niveau-là. Et ce matin, je voudrais nous poser une question. Je me la pose à moi aussi. Une question qui va peut-être vous paraître un petit peu surprenante. Mais je crois que ça vaut la peine de se la poser. En tout cas, je nous la pose ce matin et le Seigneur nous la pose aussi. Est-ce que nous sommes prêts? Parce que finalement, savoir que Jésus revient, c'est bien, il faut le savoir. Avoir toute la doctrine sur le retour de Jésus, les événements, comment ça va se passer, dans quel ordre, tout ça, c'est bien. Mais le plus important, c'est d'être prêt. Et ce matin, j'aimerais nous poser la question, peut-être d'une manière personnelle à chacun, est-ce que tu es prêt ? L'enlèvement de l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais on le verra cet après-midi, ça peut être aussi, et ça sera quelque chose de terrible. Et je crois que quelque part, ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. Alors peut-être quelqu'un va me dire, mais enfin, Cyril, tu es gentil, mais ce matin, on est au culte, on est des croyants. Pour la plupart, on s'est donné au Seigneur, on a confessé le nom de Jésus par les eaux du baptême. Ben, j'allais dire justement, je crois que la question nous concerne aussi. Elle nous concerne aussi. Et permettez que je mette sous vos yeux, avant de venir là vraiment où je veux en venir ce matin, que je mette sous vos yeux quelques versets que nous connaissons, où ce sont des paroles de Jésus, des paroles de l'apôtre Paul, qui nous montrent que cette question, est-ce que nous sommes prêts, si Jésus revient, si l'enlèvement de l'Église a lieu, parce qu'il aura lieu, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais des versets qui nous montrent que ça nous concerne tous, même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on connaît le Seigneur. Et j'allais dire, d'autant plus. Alors par exemple, regardez Matthieu 24, versets 43 et 44. Vous savez que c'est un passage eschatologique où Jésus donne des signes annonciateurs de son retour. Matthieu 24, Matthieu 25. Hein, et Jésus dit entre autres ceci, des versets qu'on connaît, et moi ça m'interpelle. Sachez le bien, vous voyez, il y a quand même une insistance. Sachez le bien. Et peut-être ce matin, le Seigneur nous dit, il faut que tu sois certain de ça. Sachez le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, et notez bien l'insistance, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et là, j'attire votre attention sur le fait que Jésus ne parle pas des autres, Jésus là ne parle pas de la foule, ou ne s'adresse pas à la foule. Là, c'est comme s'il se retourne vers ses disciples et dit « Hey, les gars, ça vous concerne aussi. Hein. » Il s'adresse aux 12 qui sont autour d'eux, à tous ceux qui ont cheminé avec lui pendant 3 ans, il leur dit « Vous aussi, ça vous concerne. » Comme pour leur dire « Croyez pas que vous êtes exclus de cette question-là. » Vous aussi, tenez-vous prêts. Le Fils de l'homme viendra à l'heure où, non pas où eux n'y penseront pas, mais à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez ? Donc c'est une question qui nous concerne tous ce matin. Regardez, dans l'évangile de Marc, c'est un petit peu le même passage, chapitre 13, avec quelques nuances. Jésus qui dit « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Et regardez, « Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. » Et là encore, vous regarderez le contexte, c'est à ses disciples qu'il parle. Il ne parle pas à la foule. Hein. C'est à eux qu'il dit « Craignez qu'il ne vous trouve endormi. » J'ose espérer ce matin que personne sur le plan spirituel n'est endormi. Bon, pas sur le plan ce matin-là. Si j'endors quelqu'un, bon, c'est pas grave. Quoique, mais sur le plan spirituel, voyez. Regardez, dans l'évangile de Luc, c'est le même passage, mais avec d'autres mots. Regardez, c'est encore plus fort. Prenez garde à vous-même. Voyez, rien que ça. Prenez garde à vous-même. Il s'adresse à ses disciples, là. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs, pas leurs cœurs, parce qu'en général, quand c'est pour les autres, on est toujours très fort, hein. Mais quand c'est pour nous, voyez, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Et encore une fois, c'est à ses disciples qu'il dit ça. Si on va un petit peu plus loin, l'apôtre Paul va dans la même direction. Regardez Romains chapitre 13, verset 11, des versets qu'on connaît. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. J'espère que nous savons en quel temps nous sommes. Si on est un peu observateur, on se rend bien compte que les choses se mettent en place petit à petit. Voyez ? Et il dit, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil, enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Et quand il est dit, le salut est plus près de nous, c'est dans le sens de la pleine réalisation du salut. C'est-à-dire ce moment où cette réalisation, pour l'instant, on est sauvé en espérance. Mais à un moment donné, viendra la pleine réalisation. C'est ce moment où on partira avec le Seigneur. Et à des croyants, là, l'apôtre Paul dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Il ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur, à des gens qui sont ignorants de ces choses, parce que là, il aurait tenu un autre langage, certainement. Mais il leur dit, vous aussi, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, de prendre conscience que ce n'est plus le temps de tergiverser ou de faire je ne sais trop quoi. Mais réveillez-vous, regardez un petit peu plus loin, aux Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 3 et 6. Quand les hommes diront paix et sûreté. Ça vous dit rien, ça ? Quand les hommes diront paix et sûreté. On en parle de la paix aujourd'hui. Hein. Et la paix, processus de paix, et tout ce que vous voulez. On y est en plein dedans. Hein. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Vous avez vu ça, là, c'est ce premier verset qu'on a lu, là, ça s'adresse à ceux qui ne connaissent pas. Mais regardez, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Et regardez, encore une fois, ne dormons donc point comme les autres. C'est à des croyants que ça s'adresse. Hein. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voyez ? Donc quelque part, cette question, elle me concerne, elle nous concerne. Est-ce que nous sommes prêts ? Et puis à l'année dernière, regardez, Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement ? De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et je pose une question ce matin, est-ce que nous attendons le Seigneur ? Est-ce que nous attendons vraiment le Seigneur ? Alors, vraiment, tout ce que je vais partager là, maintenant, dans ce qui va suivre, je vais le dire vraiment avec beaucoup d'amour. Moi, je ne suis pas, je ne me permettrai pas de me placer au-dessus, certainement pas, parce qu'on n'est pas meilleurs les uns que les autres. Et parce que la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Mais je crois qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'attendent pas le retour du Seigneur. Il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Je crois qu'il y a des enfants de Dieu, ils n'attendent pas spécialement le retour du Seigneur. Je ne dis pas qu'on n'aime pas le Seigneur. Je ne dis pas que, vous voyez, il n'y a rien. Non, je ne dis pas ça. Mais je crois qu'il y a des moments, si on attendait vraiment le Seigneur, il y aurait des choses qui seraient peut-être différentes. Dans les manières de fonctionner, dans les attitudes, dans les comportements, dans les paroles, il y aurait des choses qui seraient différentes si vraiment on était conscient de cette réalité-là. Alors, partant de là, et c'est là où je voudrais en venir ce matin, et je crois que c'était nécessaire de lire tous ces versets en introduction, et il y en aurait eu d'autres, mais je voudrais vous parler ce matin, je ne serai pas long, rassurez-vous, de David, dans l'Ancien Testament. Vous allez dire, où est le rapport ? Vous allez comprendre où je veux en venir. Rappelez-vous cette affaire de David avec Bathsheba. On connaît tous l'histoire de Samuel chapitre 11, David qui, un moment de négligence, David reste à Jérusalem, je ne sais pas ce qui lui a pris, je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Si vous regardez le contexte, vous allez vous rendre compte que David était dans un moment de victoire, il remportait des victoires, Dieu le bénissait, il le protégeait partout où il allait. Enfin, si vous lisez les chapitres précédents, vous allez voir, ça roulait pour David sur le plan spirituel, ça roulait, vous voyez ? Et puis là, on ne sait pas ce qui lui prend au début du chapitre 11. Là, à un moment donné, au temps où les rois se mettaient en campagne, il reste à Jérusalem. Petite négligence. Voyez. Vous savez, souvent, ça commence dans les détails. Hein. Ce n'est pas grand-chose, mais ça commence dans les détails. Il reste à Jérusalem. Et puis là, vous savez ce qui se passe. Un soir, il se balade sur le toit de sa maison et puis il voit cette femme là, en train de se baigner. Hein, les choses auraient pu s'arrêter là. Voyez. Des fois, on peut tomber sur des, sur des choses qu'on n'a pas spécialement voulu voir ou voulu regarder. Hein. Des fois, vous allumez la télé, vous tombez sur un truc, vous cherchez, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous cherchez la truc là, et puis la télé, vous l'avez complètement dégainée parce que vous savez plus où, vous avez tellement appuyé de partout que... Après, je dis, chérie, je ne sais pas comment elle marche, la télé. Bon, ça, c'est autre chose. Bref, mais c'est un peu ça, quoi. Vous voyez, ça aurait pu s'arrêter là. Bon, la Bible nous dit qu'il va faire demander qui est cette femme. Bon, on lui dit, c'est Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri le Hessien. Et je me dis, là encore, ça aurait pu s'arrêter là. Bon, elle est mariée, vous voyez. En plus, femme d'Uri le Hessien. Uri le Hessien, ça aurait dû le... Parce que Uri le Hessien, il faisait partie du conseil secret de David. Si vous lisez bien, on n'a pas le temps ce matin, mais c'était un de ces vaillants soldats, vous voyez. Ça aurait pu s'arrêter là, non? Il l'a fait venir. Et puis on sait ce qui se passe derrière. Il couche avec, il commet un adultère. Après, il va essayer de maquiller son péché, de cacher tout ça. Vous connaissez l'histoire, sinon vous la relirez. Et puis voyant que ça ne marche pas, je me dis quand même, et c'est David pourtant. Moi, il y a un détail dans l'histoire. Voyant que ça ne marche pas, la Bible nous dit, il écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Vous vous rendez compte? Le gars, il avait sa condamnation à mort dans la main. Ça n'est même pas rendu compte, voyez. Et il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Et il donne ça à Uri pour l'apporter à Joab, le chef de l'armée de David. C'est tordu quand même. Hein, c'est fort de café. Hein, moi que je lis ça, je suis... C'est pour vous dire, quand on commence à tomber, à descendre, ça va très vite. Hein. Vous auriez dit ça à David, vous auriez dit, moi, faire ça? Non. Ah non. Vous voyez, comme quoi? Vous voyez, le péché nous aveugle. Hein. Et puis, bon, Uri va mourir, et puis il va faire revenir Bathsheba, et puis il va la prendre pour femme. Et puis, et c'est là où j'en arrive à ce qui m'intéresse, 2 Samuel, chapitre 11, verset 27, il y a cette dernière phrase qui est là. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et le chapitre termine comme ça. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Et le début du chapitre 12 commence en disant, l'Éternel envoya Nathan vers David et Nathan vint à lui et lui dit, et vous connaissez la suite de l'histoire et tout ce que Nathan va lui dire, il va lui raconter cette petite histoire, etc. J'attire votre attention, je l'avais déjà dit, je vais le redire ce matin, que c'est l'Éternel qui a envoyé Nathan, c'est pas Nathan qui est allé vers David. Je crois que c'est quand même tellement extraordinaire de se souvenir que même quand on tombe bien bas, Dieu cherchera toujours à nous récupérer. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il cherchera toujours, toujours à nous récupérer. Dieu aurait pu dire, c'est terminé avec ce que tu viens de faire là, avec l'attitude que tu as eue, et puis... parce que souvent, on parle de l'adultère de Bathsheba, mais il n'y a pas que l'adultère. Hein. Il y a le mensonge, il y a la mesquinerie, tout est tordu dans cette histoire. Tout est tordu. Mais quand même, l'Éternel envoie Nathan vers David. Dieu cherche toujours, toujours à nous récupérer. Et ça, c'est sa grâce. Moi, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Mais c'est la grâce de Dieu. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu. Maintenant, ce qui m'interpelle, et c'est là-dessus où je voudrais vraiment insister, c'est que vous le savez, le moment entre... le moment où David a péché et le moment où Nathan vient le trouver, il y a environ un an qui s'est écoulé. Une année, à peu près. On ne va pas se battre sur une semaine ou deux, mais environ une année. Et pendant une année, entre le moment où David, ce qu'il avait fait, déplut à l'Éternel, et le moment où Nathan est venu et où il se repent, pendant une année, David a continué d'exercer. Il a continué à être roi. Il a continué à fonctionner, voyez, comme il l'avait toujours fait. Voyez. Et je me suis posé la question, je ne sais pas, et je nous la pose ce matin, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Mais comment, pendant un an, David s'est comporté? Moi, ça m'a fait réfléchir. Comment il s'est comporté pendant un an là? Vous voyez, il savait ce qu'il avait fait, mais il s'est comporté comment? Ça a été quoi son attitude? Voyez, alors, je me dis, bon, il a continué à être roi, il a continué à monter au temple. Aujourd'hui, on dirait qu'il a continué à aller à l'église. Vous voyez, continuer à l'église, comme si de rien n'était. Voyez, il a continué, parce qu'on est là, on est sous la loi, il a continué à offrir des sacrifices. Aujourd'hui, on dirait, il a continué à donner son offrande. Voyez, bref, pendant un an, voyez, et sauf que, on sait que son état spirituel était pitoyable. Pitoyable. Dans l'état où il était. Et en réfléchissant, je me suis dit, dans ce laps de temps, là, dans cette année, il y a au moins trois scénarios possibles de ce qu'a été l'attitude de David. Trois scénarios. Et je voudrais rapidement vous parler de ces trois scénarios et qu'on en retire quelques leçons pour nous ce matin. Premier scénario, dans cette année-là, pendant un an, David, il a fait du cinéma. Il a fait du cinéma. Voilà. C'est-à-dire que pendant une année, il a fait comme si tout allait bien. Comme s'il n'y avait aucun problème. Comme si tout roulait. Alors, on sait très bien que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, j'y viendrai un petit peu à la fin. Dans le psaume 32, il va dire « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Donc, il n'était pas si bien que ça. Pas si bien que ça. Mais, en public, tout va bien. Impeccable. Ça roule. Voyez, en public, premier scénario, pendant un an, David, il a fait du cinéma. C'est David, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu. Et j'ai envie de dire, remarquez, c'est pas le seul hein, qui a fait du cinéma. Dans le livre de l'Apocalypse, vendredi soir, on a parlé des sept églises d'Asie. Il y en a une à un moment donné, Sardes, Apocalypse chapitre 3, verset 2, à qui le Seigneur va dire, tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu fais du cinéma. Tu fais comme si tout allait bien, tu passes, voilà, tu te donnes une image. Tu te donnes, voilà, tu fais comme si tout allait bien. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur, mais tu es mort. Tu fais du cinéma. Ananias et Saphira, on fait du cinéma. Je ne sais pas comment vous appelez ça, mais c'est du cinéma qu'ils ont fait. Rappelez-vous le contexte. Si vous lisez acte 4, Barnabas, Joseph appelé Barnabas, est arrivé, a vendu un champ et il a mis la totalité du prix du champ au pied des apôtres. Et c'est dans ce contexte-là, acte 5, qu'Ananias et Saphira, peut-être ils ont vu ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont voulu faire pareil, mais ils ont fait du cinéma, eux. Ils n'ont pas fait le même état de cœur. Et on connaît la fin de l'histoire. Vous voyez. Je crois qu'on peut être croyant et faire du cinéma. On peut être croyant et faire du cinéma. On vient à l'église, on donne son offrande, on chante. Voilà, on est là. On n'a pas abandonné le Seigneur. Du moins, on n'a pas abandonné l'église, vous voyez. Mais on fait du cinéma. On fait du cinéma. Ce matin, j'ose espérer, et je le dis vraiment avec beaucoup d'amour, que personne n'est dans ce scénario-là. Ou quelque part, on sait très bien que ça ne va pas. On sait très bien que devant Dieu, il y a des attitudes, il y a des comportements, il y a des façons de fonctionner. Devant Dieu, ça ne tient pas. Mais on continue à faire du cinéma. Mon frère, ma soeur, si tu es dans ce scénario-là ce matin, réalise que c'est une perche que le Seigneur te tend. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une condamnation. Au contraire, c'est encore une main d'amour qu'il te tend pour que tu sortes de ce scénario-là. Si tu es dans un, voilà, espèce de, je sais pas moi, de déni d'une situation, d'un état, voyez, et au fond de nous, parce que David, je l'ai dit, il le savait, tant que je me suis tu, mes os se consumaient, mais il a, pendant un an, devant tout le monde, il a fait bonne figure. Mais si ce matin, on est dans ce scénario-là, dans notre vie, bien sûr, peut-être dans d'autres circonstances, peut-être qu'il n'y a pas commis un adultère, et tant mieux. Mais c'est peut-être autre chose. Parce que pour Dieu, le péché, c'est le péché, hein. Mais il faut sortir de ce scénario-là. Il faut en sortir. Hein. C'est important. Parce que si Jésus revient, si on est dans ce scénario-là où on fait du cinéma, si Jésus revient, si l'enlèvement de l'Église a lieu, on reste là. Et je vous promets, quand je le dis, mais j'en ai les poils qui s'hérissent. Parce que je me dis, mais est-ce qu'on s'en rend compte? C'est pas pour faire peur, c'est pas pour juger, c'est pas pour mépriser qui que ce soit, parce qu'on n'est pas meilleur. Ni vous, ni moi. Et je ne suis pas au-dessus. Hein. Mais si on est dans ce scénario où on fait du cinéma, si Jésus revient, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Deuxième scénario. J'ai réfléchi à ça. Alors, ça s'entrecoupe, tous ces scénarios, mais il y a des petites variantes, vous voyez. Mais au moins, ça a le mérite de nous faire réfléchir. Deuxième scénario, c'est que David, il était dans l'illusion. Des fois, ce n'est pas qu'on fait du cinéma, c'est qu'on est dans l'illusion. Pas tout à fait pareil. Voyez, on est dans l'illusion. Alors, on sent bien que ça ne va pas trop, mais bon, on pense que bon, finalement, est-ce que c'est si important que ça? Vous voyez, il n'y a rien de plus terrible que d'être dans l'illusion spirituelle. Il n'y a rien de plus terrible que de croire à des choses, mais on est dans l'illusion. On est dans l'illusion. Vous voyez, et dans la Bible, et je parle de David là, peut-être c'est le scénario dans lequel il s'était, vous voyez, dans l'illusion. Bon, vous voyez, mais vous en avez d'autres. Par exemple, je pense à cet homme, là aussi, une histoire terrible, Acan, qui a pris des choses dévouées par interdit. Il n'aurait pas dû. Josué avait été clair, enfin, du moins Dieu au travers de Josué avait été clair. Gardez-vous de prendre ce qui est dévoué par interdit. Vous mettriez le camp d'Israël dans l'interdit. Et puis il va prendre, vous savez, un manteau de chinéard, de l'argent, etc. Il va s'en mettre plein les poches, il va l'en mettre sous sa tente. Et puis l'affaire passe inaperçue, ni vue ni connue. Ouais, mais l'œil de Dieu, il est là. Hein. L'œil de Dieu, il est là. Hein. Et puis rappelez-vous, quand il va être découvert, je passe sur beaucoup de détails, regardez, il va être découvert. Josué dit à Acan, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait et ne me le cache point. Regardez, Acan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici ce que j'ai fait. Il en était conscient. Il est vrai que j'ai péché, il le sait. J'ai envie de dire, mais pourquoi t'as attendu d'être, j'allais dire, découverte, la main dans le sac, pour le dire? Moi, je suis convaincu, ça c'est Cyril qui le dit, que peut-être, dès qu'il l'avait fait, il serait revenu, peut-être en disant, vous voyez, peut-être les choses auraient pu être différentes. Mais il a attendu d'être découvert pour dire, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. Je me suis dit, mais comment tu as pu penser à quand que ça passerait comme ça? Voyez, parce qu'après, vous avez Josué 6, l'histoire de Jéricho. Vous arrivez Josué chapitre 7, vous avez l'histoire de Haï. Donc, on passe à autre chose. Hein, et là, à Haï, le peuple d'Israël est battu. Vous savez, c'est facile. Hein, des fois, on passe à autre chose. Bon, allez, il y a eu un truc pas très joli. En tout cas, pas digne d'un enfant de Dieu. Un comportement, une attitude, une façon de fonctionner. Et puis, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Oui, mais on peut passer à autre chose. Hein, mais devant Dieu, c'est pas réglé. Et on peut rester dans l'illusion en pensant que... Et vous savez, des fois, Dieu nous ramène. Hein. Il va nous y ramener. Hein. Parce que ce qui n'est pas réglé, le Seigneur nous y ramène. Voyez, rappelez-vous de Corinthe. Corinthe, ils étaient dans l'illusion, les Corinthiens. Ils étaient dans l'illusion. Et l'apôtre Paul, on va le mettre, va être obligé de leur dire... Vous vous rendez compte ce qu'il leur dit? Ce n'est pas des incroyants qui disent ça. C'est à des croyants. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et comme je disais, je crois que c'est vendredi soir, des fois ça serait bien de prendre un peu le dictionnaire et de regarder ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des mots, on les emploie plus trop. Voyez, mais regardez un peu ce que ça veut dire. Voyez, et l'apôtre Paul est obligé de dire, mais oh, moi j'imagine l'apôtre Paul, quand il écrit, de se dire, mais c'est pas possible, comme ils sont dans l'illusion. Il est obligé de leur écrire ces choses. Mais enfin, ça nous paraît évident, non? Enfin, je sais pas, moi, ça, en tant que croyant, ça nous paraît évident. Ben, évidemment. Ben, c'était pas si évident que ça pour les Corinthiens. Et l'apôtre Paul est obligé de le leur dire. C'est dans l'illusion. On en parlera un petit peu cet après-midi aussi de ça, vous voyez. Vous êtes dans l'illusion. L'église de la Odyssée, on en a parlé vendredi soir. L'église de l'illusion. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas, que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors on lit ça, mais c'est pas là pour nous faire peur, se dire, oulala, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est là pour nous interpeller. On ne peut pas rester dans l'illusion, voyez, pensant que ouais, ça passera, c'est pas, voyez. Et ce matin, si on est dans ce scénario-là, Dieu va t'ouvrir les yeux, mon frère, ma soeur, ou mon ami. Il faut que tu sortes de l'illusion, de penser que, bon, après tout, voyez, faut sortir de l'illusion. Parce que si Jésus revient, on reste là. Et je me dois de le dire. Je ne voudrais pas le dire. Mais d'où la question, est-ce qu'on est prêt? Moi, je me la pose. Est-ce que tu es prêt? Parce que prêcher, c'est facile. Hein. Enfin, c'est facile dans le sens que. On a l'habitude. Hein. Oui, mais. Je ne veux pas être dans l'illusion. Pas me trop. Vous voyez, être là. Peut-être David était pendant un an, il était dans l'illusion, j'y reviens. Et puis, il y a un troisième scénario que j'ai pensé. Là aussi, on pourrait dire que c'est un peu de l'illusion, tout ça, mais il y a encore une petite variante. C'est celui de se tromper soi-même par de faux raisonnements. Vous le lirez, je ne l'ai pas donné aux vidéos. L'apôtre Jacques va dire ceci, Jacques, chapitre 1er, verset 22. « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Voyez ? Alors, des faux raisonnements, il y en a. Hein ? Par exemple, bon, on sait que bon, on est, entre guillemets, je le dis comme ça tout le monde comprend, on sait qu'on n'est pas trop clean. On sait qu'il y a des... Bon. Mais on se dit qu'il y a toujours pire ailleurs. Hein. Quand je vois un tel, je le connais. Pouf, si tu savais ce qu'il fait, je vais te dire que... Hein, bon, j'ai surpris un truc. Si tu savais ce que... Je l'ai vu faire. Bon, il m'a pas vu, hein, mais moi, je l'ai vu. Et on se calme avec ça. On se dit, bon, ben, ouais, mais bon. Moi, à côté, c'est... Vous voyez, moi, à côté, c'est pire. Hein. C'est lui, enfin, lui, à côté, c'est pire que moi. Ouais, mais... Ça, c'est se tromper soi-même par de faux raisonnements. Parce que lui à côté, peut-être, mais ça ne justifie pas moi. Ça ne me justifie pas moi. Hein. Si l'autre, il fait pire à côté, si l'autre, il a fait ça, ça ne me justifie pas. Il y a juste pour vous donner un schéma, il y a quelques... dans une église, alors ce n'est pas ici, hein, mais dans une église, un jour bon, vous voyez bien, une sœur me dit, mais... telle personne, elle me parle pas. Ben, j'ai dit, tu as été demandé pourquoi ? Elle me dit oui. Ah. J'ai dit, c'est quoi le problème ? Ben, voilà ce qu'elle m'a reproché. Et elle me dit, je rentre pas dans les détails, elle me dit ce que la personne lui reprochait. Moi, je me dis, faire une histoire pour... Bon, bref, ça, c'était mon avis. Mais j'ai dit, il n'y a que ça ? Elle me dit oui. Bon. Sauf que, bon... se sont expliqués par rapport à ce que moi j'appelle que ça. Sauf qu'elle me dit, mais le problème, c'est que depuis, elle ne me parle toujours pas. Elle dit, vous voyez, et quelque part, le problème, c'est que le fait qu'elle ne lui parle pas, elle estimait que cette sœur avait fait quelque chose. Mais donc, elle ne lui parlait pas. Mais ça ne justifiait pas le fait qu'elle ne lui parle pas. Des fois, on se justifie par rapport aux autres. Ouais, mais moi, je suis comme ça. Je suis comme ça, et je fais comme ça, parce que... Ouais, mais... C'est un peu un faux raisonnement, parce que devant Dieu, on est tous responsables. On est responsables de notre part à nous. Alors après, c'est vrai que la Bible dit « autant que cela dépende de vous », on est OK là-dessus. Mais quelque part, attention au faux raisonnement. Et peut-être, vous voyez, des fois, on se dit « ouais, moi à côté, ça va, quoi ». Il y en a d'autres faux raisonnements dans lesquels on peut être, hein, en se disant, par exemple, « oh, de toute façon, un jour ou l'autre, je me referai, je me récupérerai. Un jour ou l'autre, un jour ou l'autre, on rectifiera, etc. etc. » Oui, mais c'est un faux raisonnement, ça. Hein, ça, c'est un faux raisonnement. Et puis, vous savez, il y en a un qui est très fort, c'est le diable, hein, notre ennemi. Je ne vois pas le diable partout. Mais notre ennemi, vous savez, il est très fort pour dire, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Vas-y, c'est vrai, oui, tu as raison. Hein. C'est ça, c'est comme ça. Et puis, on est dans des faux raisonnements. Et en attendant, ben, y a rien qui se passe. Je ne sais pas dans quel scénario était David. Je ne sais pas dans quel scénario était. Est-ce qu'il était dans le premier, il faisait du cinéma? Est-ce qu'il était dans le deuxième, il était en illusion? Est-ce qu'il était dans le troisième? Et quelque part, il se trompait lui-même par de faux raisonnements? Je ne sais pas. Mais je sais une chose. C'est que s'il ne s'était pas repenti, il était perdu. Tout David qu'il était. Ça fait drôle de dire ça. Si David ne s'était pas repenti, si à ce moment-là, quand Nathan est venu le voir en disant « quittez-toi pour me juger », vous voyez, encore une fois, faux raisonnement, « quittez-toi pour me juger », je te juge pas, je fais... vous voyez. Mais s'il avait fait ça, David, mais il aurait été perdu. Vous voyez. Ce que je veux dire ce matin, c'est que si on se trouve dans un de ces trois scénarios, quelles que soient les circonstances, les tenants, les aboutissants, etc., etc. Mais mon but ce matin, c'est pas de culpabiliser, d'assassiner, de faire peur. Non, mon but ce matin, c'est de sauver. Parce que quelque part, Jésus revient. Et il faut qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt. Voyez, et quelque part, il y a des situations qui font qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Voyez, et on peut. C'est pas le fait de venir à l'église et tout ça qui va faire que. Et peut-être ce matin, le Seigneur veut nous ouvrir les yeux parce que c'est important. Et on a vu tous ces versets que j'ai cités en introduction qui sont là pour nous le rappeler. C'est pourquoi vous aussi, craignez qu'il ne vous trouve endormi. Hein, prenez garde à vous-même. Parce que souvent, l'ennemi, c'est pas les autres, hein, c'est nous. Hein. Si vous regardez, dans l'Ancien Testament, moi, ça m'a frappé. Ben, tiens, David. David, à ce moment-là, hein, il est vaincu. Dans son âme, sur le plan spirituel, il est vaincu. Vous avez remarqué ? Il n'est pas vaincu par les Philistins. Il n'est pas vaincu par les Ammonites, les Moabites et tout ça. Là. Vous savez, toutes ces tribus-là à qui il s'est opposé, aux Égyptiens, etc. etc. Il n'est pas vaincu par ça. L'ennemi, il n'était pas à l'extérieur. Il était à l'intérieur. Et des fois, on n'est pas vaincu par, entre guillemets, forcément des choses que j'appellerais grossières. L'adultère, l'idolâtrie. J'allais dire l'idolâtrie, j'espère quand même que... Si quelqu'un me dit ce matin qu'il prie Marie ici, je ne comprends plus, quoi, voyez, etc. Vous voyez, bon, mais des fois, on n'est pas vaincu par des choses de l'extérieur, des ennemis extérieurs. Mais souvent, c'est des ennemis intérieurs. Et David, là, c'est, vous voyez, ça a été un ennemi intérieur, quoi. Je vais le laisser aller, la négligence, etc. Et puis paf, les faux raisonnements. Ou... Ce matin, c'est important d'être devant Dieu et je ne voudrais pas que vraiment ce soit pris dans le mauvais sens, mais dire Seigneur, ta parole nous dit examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que si on n'y est pas, ben c'est l'occasion d'y revenir. Vous voyez ? Et c'est aux Corinthiens qui dit ça, qui avait tout reçu, examinez-vous vous-même. Parce qu'on l'a vu, Seigneur reviendra chercher ceux qui l'attendent, mais qui l'attendent pas n'importe comment. Pas n'importe comment. Et ça, c'est important. C'est notre éternité, ce matin, dont je parle. La vôtre, mais aussi la mienne. Hein. Parce que c'est de notre éternité qu'il en va. Si Jésus revient. On va parler cet après-midi de l'enlèvement, là. À l'enlèvement. Je ne sais pas si vous y réfléchissez. Moi ça me fait réfléchir. Hein. Oh, je ne pense pas qu'à ça toute la journée. Quand je lis certains textes, je me dis, ça va être quelque chose, hein. Alors, je finis par David dans le psaume 32. C'est le passage que j'ai cité tout à l'heure. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Vous savez, quand je lis ça, car nuit et jour, ta main. Vous savez, le Seigneur, il parle. Car nuit et jour, le Seigneur, il était là. Ça veut dire que le Seigneur, il essayait, il revenait. Et ça, c'est le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Hein. Et il revient d'une manière ou d'une autre. Et pouf, il essaie de passer. Hein, voilà, il essaie. De, hein, si on le met dehors par la porte, il va essayer de rentrer par la fenêtre parce que Dieu nous aime. Et nuit et jour, ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. J'ai envie de dire, mais purée, mais c'est pas possible. On sent qu'il y avait un combat et que David sentait bien que ça pouvait pas rester comme ça. Et vous savez, là, ce mot-là, pause. On peut passer dessus très vite, mais vous savez comment moi je l'interprète, hein. C'est bon de réfléchir des fois devant Dieu. Il faut réfléchir un peu. Il faut savoir se poser. Et ce matin, je voudrais que ce soit vraiment justement un moment de pause devant Dieu pour se dire, Seigneur, on ne va pas se chercher des poux, il n'y en a pas. Des poils, il n'y en a pas. Il y en a qui cherchent des poils aux œufs. On ne va pas se chercher des péchés où il n'y en a pas. On sait vraiment où on en est. Seigneur, je ne veux pas être comme David. Et il continue en disant, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Autrement dit, j'ai arrêté de faire du cinéma, peut-être, ou d'être dans l'illusion. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et gloire à Dieu, tu as effacé la peine de mon péché. Gloire à Dieu, c'est ça le message d'espérance. C'est que ce matin, ce n'est pas là pour nous taper dessus. Ce n'est pas là pour nous faire peur. Je ne voudrais pas que quelqu'un parle de celui en disant cet après-midi, eh bien, purée, ce matin, je ne sais pas ce qu'il a mangé, mais... Mais c'est trop sérieux, quoi. Jésus revient. Parce que tous ces chants, on les chante, on est content. Jésus revient, alléluia. Ouais. Moi, je me dis, Seigneur, je ne veux pas louper le... S'il y a un truc que je ne veux pas louper, c'est ça. Hein. Le moment du... Ça, je ne veux pas louper ça. Pas louper ça, parce qu'après, on en parlera cet après-midi. Je ne sais pas si on réalise après ce qui va se passer. J'en dirai deux mots cet après-midi. Mais après, ça va être terrible. Hein. Et je ne veux pas être là, moi, pour le voir. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, qui que nous soyons, je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Peut-être qu'il y a des amis ce matin. Vous êtes, peut-être tu es là et quelque part, peut-être tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Alors, on ne donne pas son cœur au Seigneur parce qu'on a peur ou parce qu'on se dit « Oulala, ouh !» Alors, vite, il va falloir que « Pasteur, je vais me faire baptiser. » Non, si c'est ça, je te dirai non. Je te dirai non. Je vous dirai non. Mais on le fait parce qu'on a réalisé ce que Jésus avait accompli à la croix. On le fait parce qu'on s'est repenti de ses péchés. On le fait parce qu'on veut marcher avec Dieu, parce qu'on veut l'honorer, parce qu'on ne veut plus vivre comme avant. On veut vivre une vie nouvelle en Jésus-Christ, séparé du péché. Voilà, on le fait pour toutes ces raisons. Et, mais ce matin, si peut-être tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur, c'est l'occasion peut-être de dire, Seigneur, mais c'est vrai, je vais peut-être en laisser ces choses, on nous l'a dit, mais ce matin, Seigneur, je viens à toi. Je te donne mon cœur. Et puis peut-être en croyant, si peut-être ce matin, il y a un David au milieu de nous, ou peut-être dans d'autres circonstances, parce que chaque cas est différent. Mais peut-être le Seigneur veut t'interpeller pour que quelque part, à un moment donné, tu réagisses. Pour que le jour de l'enlèvement, tu fasses partie du contingent de départ. C'est important. Alors que Dieu nous aide. Je ne ferai pas d'appel ce matin. C'est entre nous et Dieu. Il y a des choses, ça doit se passer entre nous et le Seigneur. Et le Saint-Esprit doit faire son œuvre en nous. Et quand David dit, voilà, j'ai dit, j'avouerai à Dieu mes transgressions. Tu peux me remettre le verset? Voilà. J'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Ce matin, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est à Dieu d'abord qu'il faut que tu le dises. C'est d'abord à lui. C'est d'abord à lui. Alors on va prier le Seigneur, simplement. Voilà. Et demander au Seigneur sa grâce. Et je voudrais vraiment que ce soit vraiment dire, Seigneur, aide-nous, aide-moi. Alléluia. Seigneur, merci pour... ta parole ce matin, ces choses que tu nous rappelles, que tu nous remets devant les yeux. Et Seigneur, cette question, je la prends d'abord pour moi, Seigneur. Est-ce que je suis prêt? Seigneur, je te prie vraiment de nous trouver prêts, Seigneur. De nous trouver prêts, Seigneur. Celles qui étaient prêtes, les vierges sont rentrées. Et Seigneur, nous voulons être prêts, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que il n'y ait pas de faux raisonnement ou de choses de ce genre, Seigneur, mais que vraiment, Seigneur, chacun ce matin puisse devant toi se sentir concerné. Seigneur, je réalise que parce que tu nous aimes, Seigneur, tu nous aimes. Alors comme tu l'as fait à tes disciples, prenez garde à vous-même. Toutes ces choses, tu nous les remets devant les yeux. Seigneur, garde-nous, Seigneur, de toute suffisance ou penser que ce n'est pas pour nous, que c'est pour l'autre, Seigneur. Mais Seigneur, que tu puisses nous trouver debout à ton retour, Seigneur. Debout, Seigneur. Et, oh, pas parfait, certes, mais debout, Seigneur. Alors, aide-nous, si peut-être quelqu'un est dans un travers, Seigneur, tu l'aides, Seigneur, tu le bénis, tu es encore celui qui pardonne, tu es encore celui qui, Seigneur, redonne, Seigneur, encore, Seigneur, qui retend la main encore une fois, Seigneur, tu aimes les fils et les filles prodigues, Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui reviennent à toi avec un cœur vrai, Seigneur, tu les renouvelles, tu les restaures, alors Seigneur, si ce matin quelqu'un a besoin de restauration, de réhabilitation, Seigneur, d'être relevé, tu le fais ce matin, pour peu qu'il t'ouvre son cœur, Seigneur, étends tes mains et manifeste-toi. Je le demande au nom de Jésus. Moi, je ne peux pas le faire. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Seigneur, je te demande ta grâce, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Je te le demande au nom de Jésus. Afin que le jour où tu vas revenir chercher ton Église, nous soyons prêts. Seigneur, à toi la gloire ce matin. Au nom de Jésus. Amen.